Oui, moi je m'appelle Agus Ardan, donc je suis trésorier de l'association Pausu Media. Pausu Media, c'est une association a été créée en 2001 pour co-construire avec une association d'Hendaye la radio Antxeterratia, qui émet sur l'ensemble du bassin transfrontalier de la Bidasoa, c'est-à-dire Hendaye, Viriato, Urugne, Irun et Fontarabie.
Les programmes qui reviennent le plus à Anchita
Moi, quand je présente Antxeterratia, je parle, dans ce cadre de Pausu Media, en tant qu'un des deux pieds importants de la radio, et je dis qu'on a dans notre ADN, il y a trois ou quatre thématiques. La première qui nous identifie, c'est que on est radio qui on travaille en langue basque. Quand on dit qu'on travaille en langue basque, ça ne veut pas dire qu'on traite que des sujets basques. On est une radio généraliste, mais comme vous, vous avez fait votre choix de travailler en français, nous on a fait le choix de travailler en langue basque. Une radio de proximité qui travaille en langue basque. Le deuxième ADN, c'est ce qu'on appelle nous, c'est une radio transfrontalière. C'est-à-dire on est dans un bassin naturel, 120 000 habitants, parmi eux il y a 40 000 bascophones. Et donc, nous, pour nous, il n'y a pas de la frontière n'existe pas. Nous, on traverse le pont de Santiago de Saint-Jean tous les jours, 4 ou 5 fois, pour aller couvrir un événement là-bas, une conférence de presse ici, etc. Donc, c'est vraiment très, très naturel pour nous, cette notion de transfrontalier. Et le troisième élément, on est une radio associative. Donc, en tant que radio associative, on ne fait pas que raconter ce qui se passe. Mais on devient des acteurs de notre zone, parmi notre population. Donc on est impliqué sur un certain nombre de thématiques qui nous intéressent beaucoup. Par exemple, la mémoire historique, objet de ce projet qui nous réunit aujourd'hui ici, sur la question de l'égalité homme-femme, le travail auprès des jeunes. Donc le modèle société, on travaille sur un certain nombre de thématiques dans nos émissions qui nous tiennent à cœur parce qu'on est une radio associative. Donc ça c'est un petit peu le trois éléments centraux qui définit notre projet comme Pausu Media et notre projet comme Antxeterratia.
Combien de salariés travaillent? Et bien sûr, vous avez beaucoup de bénévoles.
Bon, pour cela peut-être il faut expliquer le projet de Antxeterratia, donc c'est un projet qui est, comme j'ai dit, qui est basé sur une zone qui est transfrontalière en soi-même, autour de la Bidasoa, avec deux associations, l'association Pausu Media Irun, l'association Antxeterratia Hendaye. Les salariés sont sur Antxeterratia. Pausu Media, on n'a pas de salariés. Antxeterratia, il a 4 salariés, il a sa fréquence octroyée par le CSA, il a ses aides de fonds de soutien, et des municipalités, etc. Donc il y en a 4 salariés temps plein en ce moment. Aussi, on est dans un dispositif qui s'appelle le Service volontaire européen, qui permet l'échange des jeunes en Europe. Et aujourd'hui, par exemple, on a Alexandra Zak, une jeune polonaise, qui est parmi nous depuis maintenant 10 mois, et qui on a accueilli en Service volontaire européen et qui participe à la radio aussi avec un équivalent presque un temps plein.
Et hormis la radio, est-ce que vous essayez de vous développer?
Et oui, Pausu Media, il a un projet de développement qui essaye d'intervenir sur des axes différents. Évidemment, on produit des programmes radio. On travaille beaucoup les ateliers de communication, qu'on appelle, c'est-à-dire des ateliers auprès des écoles ou auprès des adultes pour qu'ils s'approprient de l'outil de la radio en termes d'expression, de communication, etc. Donc ça, c'est un travail qu'on fait souvent. Et le troisième axe, c'est la question d'égalité des genres hommes-femmes. Donc on travaille beaucoup sur cet axe-là aussi. On a une pratique de construire des groupes de jeunes femmes à quelles on forme pour qu'elles s'approprient de l'outil radio et commencent à faire des émissions derrière. Donc ça, c'est une pratique qui marche assez bien. Et aussi, on intervient un petit peu sur la question de la coopération internationale. Actuellement, on est sur un projet avec les Mapuche. Mapuche, c'est un peuple originaire d'Argentine et de Chili. Et avec sa propre langue, sa propre histoire, et on accompagne le développement de radios Mapuche là-bas, de trois radios associatives. Là, ils appellent ça radio communautaire. C'est pas le même terme que vous en France. Et radio associative là-bas.
Vous avez collaboré aussi dans la mise en place d'un quotidien?
Oui, en même temps, en 2005, Pausu Media a mené une réflexion stratégique sur la fonction qu'il devait. Une fois qu'on a vu que la radio Antxeterratia existait, il marchait bien, etc. Et On s'est posé la question sur le développement. Pourquoi on a créé d'abord Enchaîne-Ratia? Parce que sur notre zone d'écoute, il n'y avait aucun média en langue basque. Donc on s'est dit, une zone comme celle-ci, avec, comme je vous ai dit, 30 000, 35 000 bascophones, des gens qui parlent le basque bascophone, et sur une population de 920 000 personnes, on a besoin de renforcer les espaces d'expression en langue basque pour que la langue basque puisse se développer. Avec des réalités différentes sur Hendaye, Irun ou Fontarabie, des réalités sociolinguistiques. Sur cette même réflexion en 2005, on s'est dit, bon, maintenant, Enchaîne-Ratia marche, c'est construit, c'est un projet qui roule tout seul. Il faut se poser la question comment développer encore plus cet axe-là vers le multimédia. Donc, on a participé, on a mis en place nous-mêmes un hebdomadaire online qu'on appelle en France presse en ligne, qui marche bien. On a participé à la création d'un quotidien en langue basque, qui a eu ses hauts et ses bas et qu'aujourd'hui c'est un hebdomadaire. Et on a participé à la création d'une télé. Ça ne veut pas dire que ces deux derniers projets, ce n'est pas des projets à nous. Nous, on a participé, on est actionnaire, si on veut, dans les entreprises qui ont créé ces projets.
Mais Pauso Media également s'est intégré dans ce projet Grundvig. Quelles ont été les thématiques justement qui ont été abordées pendant cette mémoire en construction, puisque c'est le nom de ce projet?
Oui, pour nous, c'est un projet très très intéressant. Déjà parce que par la qualité de partenaires, par le nombre de partenaires, hein, c'est quand même 12 partenaires européens. C'est un gros projet européen que vous avez mené depuis Radio Laurent. Et on voudrait vous remercier pour nous avoir invités à participer à ce projet déjà maintenant, il y a 3 ans. Hein. Et nous, on a une pratique de travail de la question de la mémoire historique. C'est vrai qu'avec ce projet-là, on est rentré dans une on va la systématiser, on va la structurer mieux, hein, grâce un peu à vous. On a travaillé historiquement, on avait travaillé 2 thématiques et sur ce projet, une troisième. Hein. La première, c'est ce qu'on appelle le réseau Comet. Le réseau Comet, c'est un réseau d'évasion d'aviateurs britanniques tombés derrière les lignes ennemies, on va dire, qui venait depuis Bruxelles jusqu'au nord de l'Afrique du Nord ou le Portugal pour ceux qui voulaient repartir en Angleterre. Et pour ceux qui voulaient partir avec l'armée britannique ou l'armée alliée d'Afrique du Nord, ils partaient directement par là-bas. Et la frontière, et là il y avait une vraie frontière à l'époque parce qu'elle était fermée, je veux dire, une vraie frontière d'un côté les nazis, d'autre côté les franquistes, non les fascistes, de deux côtés de la frontière. Était un vrai problème dans ce réseau d'évasion. Et les Basques, de deux côtés de la frontière, donc là, il n'y avait pas, c'était pas une notion autant résistance franco-française, mais de collaboration entre les Basques de deux côtés de la frontière, et avaient organisé le passage de la Bidassoa, qui était vraiment un point très dangereux. Donc, il y a des personnes qui ont été arrêtées, torturées, fusillées, et emmenées dans les camps. Ils ont meurt dans le camp aussi. Et donc, autour de ça, il y a toute une dynamique de mémoire historique qui a été créée entre Urunia et Oiartsun, donc du côté de la frontière, entre les personnes qui ont connu ces raisons. Tous les ans, il y a des événements, et en plus, c'est quelque chose qui prend de plus en plus de l'ampleur. Aujourd'hui, de l'autre côté de la frontière, à Saint-Sébastien, il y a une expo sur le réseau Comet qui va être itinérante en Pays Basque Sud et qui est très visité et très demandé. Donc nous, on est assez contents d'avoir collaboré un petit peu à récupérer cette partie
En
de la
passant par
mort.
exemple, des expositions dans les écoles, entre autres.
Là, ils ont fait une exposition interactive qui est dans un musée. Donc nous, on a fait notre travail, ça a été récupérer les témoignages. Hein. Je veux dire, on a fait, comme vous, on a fait des programmes radio, c'est ce qu'on sait faire. Mais il y a d'autres gens qui travaillent de manière permanente sur la thématique. Ils ont créé maintenant une expo. Et bon, ça, tous les ans, il y a un gros événement qui commence au cimetière d'Urugne et qui fait tous les chemins jusqu'à Oiartsun, de l'autre côté de la frontière, qui suivait en passant par les petites maisons qui étaient à côté de la rivière où les gens se cachaient avant de passer la rivière. Bon, c'est une histoire vraiment très très dure. La deuxième question, elle est un peu plus contemporaine. C'est un petit peu l'histoire années 60 et 90. Toute cette période-là dans laquelle le Pays basque il a vécu ce qu'on connaît comme le conflit basque. Donc il y a eu l'ETA qui a fait de la lutte armée, et il y a eu des organisations contre-terroristes qui luttaient contre l'ETA. Par exemple, le GAL, en Pays basque nord, en Pays basque français, il a fait quand même 28 morts. Pendant une longue période, avec des attentats. contre des personnes qui étaient réfugiées, souvent comme à Viriato, contre des personnes qui n'avaient rien à voir, donc deux personnes qui étaient tuées à Viriato. Apparemment, ils s'étaient trompés, mais dans tous les cas, il y a deux personnes qui ont été abattues lors de fêtes de Viriato et en sortant d'un parking. Donc, nous, on a travaillé énormément ça. Il faut savoir que la zone d'Iloum Fontarabi-Viriato, Hendaye, il a été très, très frappé par les différents types de violences qu'on a vécues en Pays Basque. Donc, on a 24 personnes qui ont été tuées dans cette période-là, sur des attentats et des enlèvements et très connus. Et des attentats très connus, celui de l'Hendaye, où il y a eu un bar qui est juste à côté, où il y a eu 9 personnes blessées et 2 morts. Et donc, ils sont rentrés à l'heure où les gens prenaient un coup un vendredi soir et ils ont tiré, ils ont... Vraiment, ça a marqué les consciences d'Hendaye. À Irun, on a eu des enlèvements de conseillers municipaux qui ont été torturés, enlevés par des inconnus, on va dire, hein, etc. Et donc, c'est une zone qui a été... Donc, on a travaillé pas mal cette question-là sur la récupération de la mémoire, mais surtout aussi sur la question de la réconciliation entre la réconciliation après la fin de la lutte armée de l'ETA, qui a eu lieu à Saint-Sébastien il y a 4 ans. Dans le cadre d'une conférence internationale de paix. Donc, on a beaucoup travaillé sur cette question-là et on continue à travailler. Récemment, le 3 juillet, on avait organisé ici à côté une rencontre pour présenter la conférence humanitaire qui a eu lieu à Paris le mois de juin sur la paix en Pays Basque, au Parlement français. Et on a présenté les conclusions de ça. Et c'est pas autant regarder en arrière, mais aussi regarder devant. Comment on va reconstruire le Pays Basque où il y a quand même 800 morts dans le cadre du conflit, et avec une zone comme notre, il y en avait quand même 24, avec des centaines de personnes arrêtées, torturées, incarcérées aussi. Je veux dire, les expressions de violence ont touché énormément de personnes. Il n'y a pas que la mort, il y a aussi les arrestations, la torture, etc. Et avec vous, quand on est arrivé dans ce projet, on s'est dit sur quoi on va travailler, et on a connu Radio Flora, une radio de Hanover qui est dans le projet, que curieusement ils avaient travaillé une question de mémoire historique qui avait à voir avec le Pays Basque, c'est le bombardement de Guernica, la ville de Guernica qui a été bombardée par la légion allemande de Condor, qui s'appelait, c'était des Allemands sous les ordres de Franco. Et il a été bombardé un mercredi à l'heure du marché. Donc ça, et avec, et sous, donc pendant la journée, 6 fois il a été bombardé. Donc il y avait vraiment un acharnement, une volonté de détruire une ville qui est un symbole du Pays Basque. Était déjà un symbole de l'histoire du Pays Basque, de l'identité du Pays Basque. Donc quand on a découvert qu'il y avait Radio Flora, on s'est dit pourquoi pas, on va travailler cette thématique-là. Eux, ils ont travaillé la même thématique sur la Légion Condor qui était basée à côté d'Hanover, qui était un sujet tabou, que personne ne voulait parler. Eux, quand ils ont commencé à travailler cette question-là, il y a des années, et ils ont été très critiqués par les autorités, par les citoyens de cette région-là, parce que les gens ne voulaient pas, comme d'habitude, qu'on revienne en arrière dans l'histoire. On ne voulait pas être confrontés à ces responsabilités. Et aujourd'hui, grâce à son travail qui a été énorme, aujourd'hui, institutionnellement, la société reconnaît la responsabilité des gens de cette région-là dans le nazisme, concrètement dans le bombardement et l'acharnement sur la ville de Guernica, mais c'est grâce à l'énorme travail qu'ils ont fait. C'est une radio qui a que des bénévoles, c'est une radio qui a beaucoup de profs d'université, etc., qui travaillent sur cette thématique-là. C'est vraiment des gens que pour nous, quand on les a connus, ça a été vraiment, comme on dit, chapeau.
Justement, vous parlez de Guernica, c'est ces programmes radio qu'on retrouve sur le site internet Forgotten Memory, ce site internet commun à toutes les radios.
Oui, on a décidé deux choses. Bon, on a pour remplir les objectifs du projet, que c'était l'édition d'une série de 6 programmes radio, donc on est parti à Guernica pour faire des interviews avec des survivants, les gens du musée, les constitutionnels. Donc on a choisi un certain nombre de thématiques qui touchent ça. Et on a décidé de le faire par le biais d'Alexandra Zak, cette jeune polonaise, parce qu'on voulait avoir un regard différent sur la question. On ne voulait pas que quelqu'un de la radio qui a un regard X sur ça aille le faire. Donc on a voulu un regard différent, et c'est elle qui a fait ce travail-là, et c'est elle aussi qui vous a interviewé lors de notre visite bilatérale. Parce que justement, on a voulu chercher ce type de regard, une jeune fille, avec un âge concret, qui est arrivé chez nous par le biais d'un service volontaire européen et qui a décidé de rester habiter en Pays Basque parce qu'elle est devenue amoureuse du Pays Basque. Donc elle a pris le basque, ce qui a une valeur énorme. Et donc, on a décidé de le faire comme ça parce qu'on voulait justement un regard différent sur la manière de traiter le sujet.
Et en parallèle, elle pourrait devenir salariée de Anchieta Irratia ou seulement bénévole?
Anchieta Irratia n'a pas de
oui.
N'a pas de, à ce moment, aucune prévision d'embauche. Sur ça, tu le sais bien, et tenir une radio avec 4 salariés, c'est un budget très important, et les choses ne se décident pas comme ça, quoi. C'est-à-dire, un salarié, c'est un coût, et il faut qu'en parallèle, les recettes augmentent.
Alors, Alexandra et vous, vous êtes venus le 8 et le 9 mai à Oloron. Comment avez-vous trouvé ce meeting final et notamment la visite du camp de Gurs, dont je crois un des membres de votre famille est passé par là?
Alexandra a suivi bien le projet. Elle était venue à Oloron, elle était venue aussi à Nover et en Irlande. Elle a participé à les deux formations. Je veux dire, c'est quelqu'un qu'on... Je vous répète, on a voulu que sa participation en tant que CVE, Service Volontaire Européen, etc., lui servent aussi pour s'approprier de ce type de compétences. Et moi, personnellement, oui, moi personnellement, la thématique du champ de guerre, c'est une thématique personnelle, parce qu'il y a mon oncle qui était capitaine de l'armée républicaine, qui, quand la défaite de l'armée face aux putschistes de Franco, il a dû passer la frontière, et l'accueil du gouvernement français, ça a été de le mettre dans un champ de concentration, parce que pour moi, le champ de guerre, ce n'était pas un champ d'accueil, mais un champ de concentration. Bon, les associations qui travaillent sur Thomas Equipa le racontent aussi comme ça, hein, dans lequel il a énormément souffert. La famine était très dure, les conditions de vie étaient hyper dures, l'isolement était très dur, et même, moi j'ai des lettres de lui dans lesquelles il se plaignait vraiment de la non-solidarité des habitants du coin. Il y a eu des personnes qui ont osé être solidaires avec les personnes qui étaient, les milliers et les milliers de personnes qui étaient dans les champs de Gurs, mais c'est vrai que la majorité de la population, il a préféré regarder ailleurs. Hein? Et ça, c'est un vrai problème, je pense que c'est un vrai problème en France, c'est-à-dire qu'on parle énormément de la résistance française, mais le pourcentage des personnes qui participent à la résistance était très petit et la majorité de la population il a accepté cette situation parce qu'il fallait peut-être l'accepter, j'en sais rien. Mais en tout cas, lui, son point de vue de mon oncle, c'était qu'il avait souffert. Il a réussi à sortir vivant de là. Il n'a pas été envoyé dans des camps de concentration dans l'Allemagne comme d'autres, etc. Et il est parti dans un bateau de Bordeaux, le bateau qui avait mis Pablo Neruda, le fameux poète argentin, pour partir au Mexique. C'est un bateau qui a tourné dans la mer parce que personne ne voulait les accueillir, jusqu'à finalement le Mexique a décidé de les accueillir, et la ville l'a amené jusqu'en Argentine où il a réussi à reconstruire sa vie. Mais c'est une histoire de la partie de ma mère, de notre famille, qui a été vraiment très très dure, quoi. La guerre a cassé la famille de ma mère, la moitié des... Et le père est parti a suivi avec deux enfants mon oncle en Argentine, et ma grand-mère est restée ici avec trois filles. Donc la guerre a produit vraiment une saison. Mon grand-père est mort en Argentine, mais mes oncles, il manque la femme de ce monsieur est encore vivante, mais le reste, ils sont morts. Et donc, c'est vraiment quelque chose de très dur dans la famille de ma mère qui a produit carrément la fracture de la famille. Et il a passé par Gurs, donc pour moi, c'est vraiment quelque chose un petit peu... Il faut dire quand même que la question des champs de Gurs, il a actuellement une expo à Irun, sur le champ de Gurs, une expo qui va aussi tourner, parce que parmi les gens qui étaient là-bas, il y avait beaucoup de Basques, de l'armée basque, parce que dans le cas de l'armée républicaine, il y avait l'armée basque qui était créée par le gouvernement basque, et il y a beaucoup d'intérêt de plus en plus sur cette question-là en Pays basque. Et aujourd'hui, il y a une expo très très bien qui est juste à Irun et qui va tourner sur plusieurs lieux du Pays basque sur cette thématique-là. J'étais impressionné par la passion et la manière où le monsieur qui nous a fait la visite du CHAM, ça m'a vraiment touché. Ça a été vraiment très personnel, cette histoire. Et pour moi, avoir participé à la rencontre de l'Eurom, surtout à cette question-là, hein, à la question de la visite du CHAM, le reste, bon, on a travaillé ensemble, on a vécu de bons moments. Mais pour moi, personnellement, c'est une thématique qui me touchait personnellement. Et je n'avais jamais allé et ça m'a permis de faire la visite.